Toujours un plaisir de le retrouver le mardi. Il est gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Martin Lalonde est avec moi. Salut Martin.
Allô Rack.
Aujourd'hui, c'est intéressant comme sujet. Tu veux nous parler, dans le fond, des grands enseignements que Warren Buffett pourrait nous faire en disant « Choisissez des entreprises, des compagnies avec des avantages compétitifs durables. J'ai aucune idée de quoi je parle, mais tu vas me l'expliquer. »
Je vais te l'expliquer, Rock. Quand M. Buffett parle, la plupart des gens écoutent avec raison. On parle d'un des hommes les plus riches au monde et un des meilleurs investisseurs qu'il y a eu dans l'histoire. Et il a exprimé devant une université au cours des dernières années c'est quoi pour lui qu'il cherche dans une compagnie. Et il a donné l'exemple, en anglais, c'est le mot « moat », ça s'appelle des douves. Dans le fond, quand vous avez mot français,
douves.
D-O-U-V-E.
Oui.
Quand on a un château, ben, il est entouré d'eau, ça s'appelle des douves. Donc, plus grand et plus gros est le château et plus grand est sa protection. Donc, dans le temps, ça va être une compagnie, la plupart du temps, ou un château qui va être le plus solide. Donc, lui, il regarde des entreprises qui possèdent ce genre de protection-là contre la compétition.
Donc, lui, il souhaite des monopoles.
Entre autres. Mais ben, pas nécessairement des monopoles, mais je vais t'expliquer c'est quoi les caractéristiques des entreprises qui possèdent ce genre de protection-là.
Okay.
Et c'est des entreprises qui, à long terme, vont donner un rendement qui est habituellement plus haut que le marché quand on investit dans celle-ci. Premier exemple, c'est au niveau du prix. Donc, une entreprise qui réussit à produire quelque chose à coût moindre. Facile à dire, mais on va donner des exemples. Dolorama au Québec, qui a un réseau de distribution qui est absolument formidable et qui réussit à vendre des produits moins chers que la compétition. Ça prend beaucoup de temps de mettre ça en place, mais quand on est capable, quand on a cet avantage-là, c'est très, très difficile pour la compétition de prendre notre place parce que c'est impossible pour eux de produire un coût si faible. Même chose aux États-Unis, c'est une compagnie que Warren Buffett possède, ça s'appelle Geico Assurance, donc c'est une compagnie d'assurance qui est très, très forte en ligne, peu d'intermédiaires entre le consommateur et la compagnie d'assurance, ce qui fait que les coûts sont plus faibles, donc ça nous permet d'avoir un meilleur positionnement par rapport à nos compétiteurs. Donc la première chose, c'est le prix. La deuxième façon qu'on peut distinguer et se protéger de la compétition, c'est au niveau de la réputation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, c'est un produit pour lequel le client va accepter de payer plus cher juste parce que le produit est connu. L'exemple que je donne souvent aux gens autour de moi, c'est Tylenol. Donc, Tylenol, c'est un produit qui est... c'est de l'acétaminophène, donc le produit générique est disponible en grande partie, donc et la plupart des experts s'accordent pour dire que c'est exactement le même produit. Il n'y a aucune différence entre une Tylenol et un acétaminophène générique, et les gens vont payer plus cher pour la Tylenol juste parce qu'ils ont une plus grande confiance dans le produit. Quand on réussit à produire ce genre de réputation-là, ça nous garde dans le temps et on a un avantage.
Okay.
La même chose avec Expedia. Je donne cet exemple-là parce qu'au début d'Internet, les gens avaient peur d'investir ou d'acheter des choses sur Internet. Et Expedia a pris la place en ayant un extrêmement bon service à la clientèle. Donc, les gens n'avaient plus peur et ils ont pris le monopole.
OK.
Troisième avantage. Oui, vas-y.
Un, prix, les critères. Un, prix, deux, réputation.
Oui.
Trois, environnement
réglementaire. Oui. Ça, c'est le plus important. Donc, quand l'environnement réglementaire fait en sorte qu'il n'y a pas de compétition. L'exemple le plus facile au Canada, c'est les grandes banques. Les grandes banques ne peuvent pas avoir d'actionnaires majoritaires. Les grandes banques ne peuvent pas avoir un actionnariat étranger plus gros qu'un certain pourcentage. Donc, les banques canadiennes peuvent difficilement se fusionner ou en acheter une autre selon les règlements, ce qui fait qu'ils ont un monopole au Canada, ce qui fait que leurs marges sont beaucoup plus élevées que la compétition qui pourrait arriver. Aux États-Unis, il y a les services publics, c'est peut-être... le secteur où ça s'applique le plus, donc les compagnies d'électricité, les compagnies de transport de pétrole, des choses comme ça, où les tarifs sont imposés par l'État. Donc, ce qui veut dire que les gens, ils savent d'avance le montant qu'ils vont faire et le profit qui va être fait par l'entreprise. Donc, quand il y a un environnement réglementaire qui est favorable à une certaine compagnie par rapport à une autre, bien, c'est un avantage qui est effectivement durable dans le temps.
Donc, ce sont des critères, ces trois-là, prenons ces trois-là.
Oui.
Bon, des enseignements de Buffett, mais ce sont des critères que, par exemple, vous utilisez dans le
Absolument.
Choix de vos entreprises?
Absolument. Donc, on va essayer de trouver des entreprises qui possèdent une certaine protection contre... contre la compétition. Et ces trois choses-là font en sorte qu'il existe sur les marchés des monopoles et des duopoles ou des multipoles ou ça dépend.
Oligopole,
c'est le bon mot. Qui fait que quand une entreprise fait partie de ce type d'association-là, c'est extrêmement difficile de prendre la place. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est Bombardier au cours des dernières semaines ou des dernières années au Canada, qui a essayé de pénétrer le duopole Airbus-Boeing. Et c'était quelque chose qui était absolument impossible à faire et que possiblement, si Bombardier n'avait pas été acheté ou si ça n'avait pas donné à Airbus, aurait possiblement fait faillite. Un autre exemple que je voulais te donner, Rock, à toi, c'est parce qu'on en a parlé des dernières semaines, c'est les vols régionaux avec Air Canada, donc ils sont beaucoup plus chers.
Oui, et d'ailleurs, le PQ sort avec une proposition, avec un prix plancher. La CAQ souhaite un prix plafond. L'UMQ va sortir, je crois que c'est vendredi, avec des propositions. Parce que, honnêtement, là, quand je regarde les prix des vols au Québec, ce qu'on apprend, c'est qu'un vol au Québec, un vol régional au Québec, que ce soit de Montréal vers Sept-Îles, par exemple, mais pour la même distance, c'est 5 fois plus cher au Québec qu'ailleurs au Canada. Puis ça, il y a un impact économique majeur. On a été plusieurs années ici à Gatineau sans avoir de vol sur Québec, notamment. Et ça fait en sorte que l'aéroport fonctionne pas très ou à pleine capacité, bien au contraire. Et c'est un enjeu majeur là, au Québec, la question de la desserte d'avion sur nos territoires.
Absolument. Et moi, je suis une personne qui favorise la non-intervention gouvernementale dans la plupart des choses d'affaires, si on peut dire. Et peut-être le seul moment où je crois que c'est important, c'est pour favoriser la compétition. Et présentement, c'est facile de savoir pourquoi Air Canada a le monopole de ces trajets-là, si on peut dire. C'est que si un nouvel entrant voulait aller sur la même trajectoire. Donc, Air Canada aurait juste à baisser le prix au même prix que le nouvel entrant ou un peu moins cher. Et juste à cause de la réputation d'Air Canada et sa flexibilité au niveau des prix, ben la personne qui voudrait rentrer dans ce nouveau trajet-là ferait faillite comme on peut l'imaginer. Donc, il faudrait possiblement avoir une intervention de l'État à ce moment-là.
Comment tu verrais ça?
Mais un peu de la même façon qui a été faite avec Bell Canada quand il y avait le monopole. Donc, on dit à l'entreprise, on vous donne un certain monopole. Par contre, on vous oblige à desservir l'ensemble de la population canadienne au même prix. Donc, si la personne est à Sept-Îles ou si la personne est à Montréal ou si la personne est à Toronto, elle va payer pareil son téléphone au même prix. C'est ce qui s'appliquait avec Bell Canada avant. Donc, on obligeait Bell Canada à construire des poteaux de téléphone, à construire des choses à des endroits où, si on ne l'obligeait pas, ça n'aurait pas été payant pour elle. Donc, on pourrait imposer un prix au kilomètre au Canada pour les vols internes, et ça pourrait être une façon de contourner ça. Je ne dis pas que c'est faisable nécessairement, mais il y a une intervention possible.
Tu favoriserais donc un monopole?
Ou on favorise une compétition. Donc, avec Bell Canada, quand il y a eu de la compétition, on a obligé, dans le fond, on a permis aux compétiteurs d'utiliser les infrastructures de Bell Canada qui étaient déjà présentes, on pourrait faire la même type de choses. Mais le but, je pense que le but premier, c'est pas nécessairement d'éliminer le monopole, mais c'est de baisser les prix pour le consommateur. Donc, ça va dépendre de l'approche qui va être prise par les gouvernements.
D'un autre côté, moi, je suis assez d'accord avec le principe de l'offre et la demande. Quand on a une comparaison en disant, c'est écœurant, Montréal-Sept-Îles, c'est le même prix que Montréal-Paris. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a pas mal plus de monde dans l'avion qui vont s'en voir à Paris qu'il y en a qui s'en vont à Sept-Îles. C'est peut-être normal que ça coûte le même prix, mettons, ou même moins cher.
Possiblement, mais là, c'est une décision politique à savoir c'est quelle importance on donne, nous, les Canadiens, à la possibilité des gens d'affaires de se déplacer à l'intérieur du pays ou à l'intérieur de la province à un prix qui est raisonnable. Si c'est important pour nous, on peut faire l'intervention.
Puis soyons conséquents. Si on agit avec des forceps sur le transport aérien, est-ce qu'on force les compagnies ferroviaires à avoir des lignes ferroviaires qui s'en vont à Montréal, c'est-il? Est-ce qu'on force une ligne d'autobus, même chose?
Bien, les lignes ferroviaires, ils ont été longtemps obligées de donner un certain service.
Plus là.
Bien,
c'est ça. Est-ce qu'on a un traitement différent pour l'aérien que pour le ferroviaire ou l'autobus?
Bien, quand il y a une position de monopole ou de duopole ou de oligopole, je pense que c'est important au gouvernement d'intervenir pour permettre une saine compétition puis des prix qui sont acceptables pour les gens. Et on le sait quand c'est pas acceptable pour les gens, quand il y a des prix qui font absolument pas de sens, comme je crois certains vols intérieurs au Québec.
Non, mais je te répète, là, il y a la question de l'offre et de la demande. S'il n'y a pas de monde qui font Montréal, Sept-Îles, s'il n'y a pas de volume, maintenir artificiellement un avion. C'est parce que tu sais que la conséquence de ça va être quoi? La conséquence, c'est que si l'entreprise perd de l'argent sur les vols intérieurs, ils vont se ramasser qu'ils vont nous facturer ces vols internationaux. Tu vas payer pareil. Puis la personne qui s'en va sur Paris, ben va le payer, va payer le manque à gagner du vol Montréal-Sept-Îles. Pas sûr que c'est l'entreprise qui va absorber ça. C'est le contribuable encore.
Pas certain. Je pense que la compétition est saine. Et quand on est dans un environnement où il n'y a pas de compétition pour des raisons de monopole, il faut intervenir.
Oui, compétition est saine sur... Ben oui, tu prends l'avion WOW, la chaîne WOW, tu t'en vas Montréal-Paris, puis WOW n'a pas d'obligation de desservir cette île. C'est sûr qu'il va te le vendre moins cher qu'Air Canada. Ben, pas sûr que ça marche, moi, là. En tout cas, moi, je suis très frileux.
Si on revient à l'avantage, c'est que présentement, donc, Air Canada serait une entreprise qui est bien protégée de la compétition parce qu'a un certain monopole au Canada et parce qu'il y a une belle réputation. Donc, il y a plusieurs gens qui vont préférer prendre Air Canada compétiteur.
Une des façons. Ça serait de dire, écoute, Air Canada, on comprend la stratégie d'avoir des prix plus bas pour éviter d'avoir de la compétition. Pas de problème. Le jour que tu as ton prix le plus bas, tu dois le maintenir pour une année. Fait que tu peux pas jouer au yo-yo puis remonter ton prix une fois que tu as exclu la compétition.
Ça serait plausible.
Excellent. Merci beaucoup, Martin.
Merci à toi.
OK, Martin Lalonde, gestionnaire de portefeuille chez Rivemont.